moi j'aurais dû être champion du monde il y a 3 ans, où j'ai eu beaucoup de bagarres quand j'étais jeune, beaucoup, beaucoup. Tu tapais, il allait aller chercher son grand frère, et du coup ça fait en sorte que j'ai dû taper les gars, taper le grand frère aussi. Quand j'étais jeune, quand j'étais au Cameroun d'ailleurs, il y avait une maison derrière. Et la maison derrière appartenait, nous on l'appelait le sorcier ou le marabout. Il faisait paniquer le monde. Tout le quartier avait peur de lui. Puis je cours. D'un coup, je heurte quelqu'un et je monte la tête. Putain, c'était lui. Il me sort. Petit, tu vas être un grand champion.
Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Baba Versus. Et aujourd'hui, je suis accompagné du champion du monde WBC de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 76 kilos en super moyen, Christian Billy. Salut Christian.
Salut tout le monde.
Comment
salut,
tu vas?
La forme et toi?
Ça va, merci. Écoute, merci déjà d'être venu chez RMC. On est content de te recevoir parce qu'on sait que quand tu viens en France, t'as pas beaucoup de temps, donc tu partages ton temps entre les médias et la famille. Et nous, on va en profiter pour faire un épisode où on va pouvoir raconter un petit peu ton parcours. Le but, c'est de te faire découvrir un petit peu plus et qu'on puisse t'accompagner sur cette route de champion du monde et peut-être d'un combat très important qui arrive plus tard. On va en reparler en tout cas. Moi, déjà, je voudrais revenir sur ton actualité un petit peu plus chaude. Donc, tu sors d'un combat contre Lester Martinez, qui a été match nul. Et ensuite, tu as été élevé au rang de champion. Donc, tu étais champion intérim WBC. Il y a eu toute une tambouille, puisque Terence Crawford a pris sa retraite, et donc il a lâché toutes les ceintures. Il y a eu un moment de flottement, parce que moi, j'attendais qu'il t'élève au rang de champion. Ils ont commencé à faire des enchères, des trucs. Les combats, certains n'ont pas pris. Et puis, au final, il y a eu enfin cette annonce au mois de juin, où on a dit, ça y est, en fait, c'est Christian Billy qui est le champion WBC. Donc, quel est ton sentiment déjà par rapport à ça?
Bah déjà, d'un, je suis content. Content d'être champion du monde, enfin. Ça fait des années maintenant qu'on attend ça. Ça fait des années que je suis challenger numéro 1 de WBC à Canelo. J'étais aussi challenger numéro 1 à WBA également, avant que je m'engage complètement avec la WBC en tant que champion du monde intérimaire. Mais enfin, je suis champion du monde. Et enfin, un de mes objectifs en tant que sportif est atteint. Il reste encore d'autres. Donc, ouais, c'est vraiment un soulagement et une fierté également.
Ouais, soulagement, j'imagine. Est-ce que, je suis obligé de demander aussi, est-ce qu'il y a une part de frustration de se dire que t'as pas eu ce couronnement dans le ring, tu vois, après un combat en disant là, je suis vraiment champion du monde?
Je suis très content d'être champion du monde, même sans combattre. Mais il faut savoir qu'en boxe, le champion du monde intérimaire, il est champion du monde. C'est juste que, bah, soit normalement, le champion du monde intérimaire, c'est contre le champion régulier et dans l'incapacité de combattre, tout ne veut pas combattre, tout trouve des excuses. Ça fait en sorte qu'enfin, un championnat du monde intérimaire, pour faire patienter un peu le numéro 1, on dit, ok, bah, t'as quand même une chance mondiale, mais avant de rencontrer le super champion, t'attends un petit peu. Et moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans cette position. Et de numéro 1, ensuite, il y a un peu plus d'un an, je suis devenu champion du monde intérimaire. C'est sûr que j'aurais aimé combattre et avoir ma ceinture de cette manière-là, je pense un peu plus, c'est un peu plus, je dirais, naturel pour le monde de la boxe. Mais déjà, vu le nombre d'années que j'ai attendu, je suis content d'avoir cette ceinture enfin, même si j'ai commencé par l'intérim.
Ouais, et puis en plus, en vrai, vu tout ce qui se passait, c'était pas garanti. Comme je le disais, ils ont commencé à lancer des enchères avec d'autres combattants. Certains ont refusé l'opportunité. Il y en a dans l'eau qui voulaient toujours pas t'affronter.
Exactement. Bah, c'était un peu la stratégie. Je veux au départ, c'est naturel. Avec le WBC, enfin le WBA, c'était la même chose. T'as le Mexicain, j'ai oublié son nom, qui est devenu champion du monde du WBA, super moyen. Lui, il a eu la chance d'ailleurs. Il a fait un match, un combat très serré face à Caleb Plant, qui bat par décision partagée. Et c'était un boxeur mexicain qui venait de nulle part, qui aurait dû faire briller Caleb Plant, est devenu champion du monde intérimaire.
Et Resendiz.
Ouais, directement du WBC par la suite. Enfin, directement champion du monde régulier de WBA par la suite. Ouais. Et moi, j'étais champion du monde intérimaire de WBC. Je pense que ma place, je le mérite depuis des années. J'ai combattu tous les combattants que j'aurais dû combattre. Et nous, si tu veux, au départ, contre Crawford, on savait qu'il allait lâcher les ceintures. On allait lâcher la ceinture. On a dit, bah, on savait qu'à WBC, automatiquement, on devait me donner la ceinture.
Ouais.
Mais nous, on avait des combats qu'on espérait avoir face à Shiraz, face à des gros noms qui nous fuient un peu depuis des années. Et ensuite, contre la WBC a demandé à Shiraz m'ont rencontré pour le titre vacant, ça nous allait parfaitement. On se dit, ok, c'est une pression supplémentaire pour lui pour ne pas nous refuser parce qu'il y a un titre de WBC. ordonné par le président. Et on s'est dit, bah, c'est le moment, c'est parfait, on va avoir un gros combat et on va être champion du monde comme ça. Mais malheureusement, bah, il a dit non, il a préféré la WBA qui était un combat plus facile pour lui. Et automatiquement, on s'est dit, ok, bah, on va être champion du monde. Ensuite, on verra ce qui se passera par la suite.
Toi, c'est compliqué. Hein. Là, on en discute, toi et moi, on est parfaitement au fait du sujet. J'essaie de garder ceux qui nous regardent avec nous parce que c'est beaucoup de politique autour de ces combats-là, tu vois, parce qu'on aurait tendance à croire que la boxe, les meilleurs s'affrontent, point barre. Sauf qu'en fait, dans une catégorie, il y a quatre ceintures, il y a quatre fédérations majeures. Donc toi, tu avais été pas mal de temps avec une de ces fédérations-là. Tu as choisi une route différente derrière, avec la WBC. Mais en fin de compte, avec toutes les ceintures vacantes, on a eu plus de problèmes qu'autre chose. Alors qu'avant, il n'y avait qu'un seul gars qui était champion.
Il n'y avait qu'un seul gars qui était champion, mais le champion faisait un peu ce qu'il voulait.
Il faisait tout ce qu'il voulait.
Il montait, il défendait, il allait se balader, il choisissait. Et ça fait en sorte que bah, ce n'était pas beaucoup mieux que ça. Mais maintenant, ce qui est bien pour plus ou moins la génération précédente, c'est qu'on a l'opportunité maintenant d'être champion du monde. Moi, j'aurais dû être champion du monde il y a 3 ans.
Ouais.
Ça fait 3 ans qu'on attend. Pareil pour Shiraz ou pour ceux qui vont combattre pour les autres ceintures, ça fait des années qu'on attend. Ça fait des années qu'on attend notre chance. Alors, est-ce qu'il va reprendre son challenger obligatoire? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va monter? Et ce qui fait en sorte que bah, c'est un point positif. Pourquoi c'est un point positif de plus ou moins que Canelo est perdu face à Crawford. Au moins, les ceintures sont vacantes. Tout le monde a sa chance,
ouais.
Par rapport au classement, évidemment.
Oui, exactement. C'est ce qu'on a vu. Hein. On y reviendra plus tard dans l'interview. Mais c'était un peu le scénario que je voulais, moi, personnellement, que ce soit en tant qu'analyste, mais aussi en tant que fan, pour que ça puisse redistribuer les cartes, qu'on ait 4 nouveaux champions, entre guillemets, qu'on essaie d'avoir des unifications, que tout le monde s'affronte, et puis surtout, ça ouvre des opportunités, comme on le verra tout à l'heure. Mais avant d'arriver jusqu'à champion du monde, bah, il faut bien commencer quelque part.
C'est vrai.
Toi, ton parcours, il commence au Cameroun. C'est là-bas que tu es, donc.
Exact.
Tu es arrivé en France à l'âge de 11 ans, c'est ça ?
11 ans, exactement.
T'as encore des souvenirs de ton enfance au Cameroun ?
Évidemment, j'ai encore les souvenirs de mon enfance au Cameroun. Même si c'est des souvenirs précis.
Ouais.
J'en ai encore beaucoup.
Alors, est-ce que quand tu arrives en France, parce que c'est toujours ce problème-là, de se dire on arrive dans un nouveau pays, en plus là, t'as quand même construit une bonne partie de ton enfance, il y a ce déracinement. C'est quoi la première sensation d'arriver en France pour un jeune Africain comme ça ?
Bah, j'avais froid. Je suis arrivé en plein milieu, si je ne me trompe pas, en plein décembre.
Ah ouais, en hiver.
Je crois en hiver, décembre ou janvier, je ne sais plus exactement. C'était en hiver. Ouais. Et je me rappelle ma première sensation quand je suis à l'aéroport, je caillais. Il faisait froid. Heureusement, ma mère elle avait pensé à m'amener un gros manteau.
Ouais.
J'avais très très froid. Et en plus, je pense que j'étais tombé malade dans l'avion. J'étais malade dans l'avion, je vomissais, je dormais, j'étais panique totale là-bas. après les jours d'après, je suis quand même content de voir ma maman, parce que ma maman était là avant moi. Trois ans avant moi, ou 4 ans, je ne sais plus. Et j'étais content de voir ma maman, enfin, ça faisait des années que j'attendais mon visa. Pendant des années, j'ai entendu le visa d'enfant venir en France. Et j'étais très très content à l'époque.
Et tu arrives dans quelle partie de la France ?
Montargis, exactement.
À Montargis ?
Montargis, ouais. Région centre.
Ouais, donc c'est même pas, j'ai envie de dire, à Paris, Tour Eiffel,
non, non, non.
Tout ça.
Bah, d'autant plus que je me rappelle, bah, je ne me souviens pas de l'image de la Tour Eiffel, mais quand mon papa et ma maman sont allés me chercher à l'aéroport, ils ont voulu passer par la Tour Eiffel pour voir la Tour Eiffel. Mais tout ce que je me souviens, c'est que mon papa voulait qu'on passe voir la Tour Eiffel en passant à côté. Mais je n'ai même plus des images. Je crois que j'étais tellement malade et fatigué. Je ne me souviens même plus des images de la Tour Eiffel à l'époque.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc tu arrives dans une ville comme Montargis et faut faire sa place.
C'est ça, faut faire sa place. Pour te dire, si tu veux, mon papa, qui m'a adopté, qui est mon papa adoptif, qui est le mari de ma maman. Lui était ingénieur en travaux publics. Il voyageait beaucoup. Il a voyagé en tout le monde, beaucoup en Afrique, en Europe. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma maman au Cameroun. Et quand je suis arrivé en France, il avait un chantier pas très loin de la région centre. Du coup, il déménageait tout le temps. Il a pris une maison à côté de Montargis, enfin à Montargis, il connaissait pas beaucoup le quartier, mais il a pris sûrement la première annonce qui paraissait bien. Et c'est ça, et j'étais à Montargis, à côté d'un quartier assez difficile. Et quand tu es jeune, tu veux sortir, tu vas au stade de foot qui est à côté, tu veux jouer au foot. C'est comme ça que tu te rends compte qu'il faut faire sa place, il faut se faire respecter parce que…
Les bagarres, du coup.
Les bagarres.
Beaucoup ? Tu te bagarres beaucoup ?
Beaucoup. J'ai eu beaucoup de bagarres quand j'étais jeune, beaucoup, beaucoup.
Si tu connais déjà, c'est compliqué.
C'est pas forcément. Mais faut, quand tu vis dans un environnement un peu difficile où les jeunes de 15 ans, ils veulent faire, ils veulent montrer un peu que. D'autant plus que moi, j'avais un défaut. C'est pas un défaut, en qualité comme un défaut, mais ce que j'étais assez costaud pour mon âge.
Ouais.
Ça fait en sorte que celui qui veut montrer qu'il est fort, il va prendre le plus costaud en disant écoutez, lui, il est costaud, mais je peux le battre pareil. Et c'est comme ça que j'ai dû apprendre à me défendre. D'autant plus que j'avais pas de grand frère. À l'époque, tu tapais rien, il allait chercher son grand frère. Et du coup, ça fait en sorte que j'ai dû taper les gars et taper leur grand frère aussi.
Ouais, mais en tout cas, ça te fait un nom, j'imagine.
C'est sûr. À Montargis, j'avais un gros nom. C'est sûr.
Et c'est comme ça que tu passes de la rue à la salle de boxe.
C'est ça. Et à l'époque, déjà, je me disais que, écoute, tu n'as pas de grand frère, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de jeunes qui cherchent des problèmes. Et je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à me défendre. Il faut que j'apprenne à me défendre un peu plus. Et à l'époque aussi, j'avais j'ai oublié le nom de ce métier, mais un agent de l'Amérique, qui s'occupait des jeunes de quartier.
Ouais, c'est des médiateurs.
Médiateurs, exactement, ouais. qui m'avait vu une fois et qui m'avait conseillé tu te bats bien. Je m'entraîne à la salle de boxe, il m'a dirigé petit à petit à l'USM Montargis, qui est mon tout premier club d'ailleurs, que je vais aller voir dans quelques jours pour aller présenter la ceinture.
Ouais.
Qui est mon tout premier club de boxe. Et c'est là-bas que j'ai eu mes premières formations, mes premiers cours de boxe. Et c'est comme ça que je me suis dirigé petit à petit vers la boxe.
Donc il t'a vu mettre des KO dans la rue et t'a dit c'est mieux de les mettre dans la salle. Parce que tu mettais déjà des KO, t'avais déjà cette puissance-là.
Il y avait une puissance, on va dire, j'étais courageux. J'étais courageux et c'est vrai que c'était un environnement difficile. C'était pas non plus. Difficile façon de parler, c'est pas non plus les favelas là, mais
oui, mais c'est ce que c'est quand même,
c'est ça, c'est ce qui est, c'est t'as besoin de te faire respecter.
Ouais.
Et dans un environnement où chaque problème doit servir d'exemple pour ne pas avoir des problèmes par la suite.
Ouais.
Ça fait en sorte que chaque fois que tu avais un problème, tu es obligé de sévir tout de suite pour ne pas montrer aux gens que ils peuvent venir te chercher des noix. Sans...
C'est vraiment ce truc-là, en fait. Même si c'est le paraître, même si c'est une aura,
c'est ça.
Il faut imposer quelque chose.
Il faut imposer quelque chose. Il n'y a personne qui peut venir te chercher des embrouilles et partir sans rien avoir. Sinon, le monde va commencer à dire on va l'essayer.
Ouais.
Ça fait en sorte que chaque fois, faut quand même avouer que. J'étais assez rapide sur le coup de poing. Moi, c'était du tac au tac.
Voilà, tu rêvais.
Et directement.
Ouais, tu démarrais au quart de tour.
Ouais, c'est ça. Et justement, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que j'ai commencé la boxe, je me suis vraiment calmé.
C'est ce que j'allais dire.
Fois que j'ai commencé la boxe, c'est sûr qu'il fallait quand même montrer encore qu'il ne fallait pas te chercher les noises.
Ouais.
Mais avant de te mettre un coup de poing, il fallait vraiment pousser. Je dis OK, calme-toi, c'est bon. Avant, c'était boum directement. Il rentre chez toi.
Est-ce que tu deviens plus conscient des dégâts que tu peux infliger, peut-être ?
Tu deviens plus conscient et je pense que t'as plus vraiment rien à prouver. Quand t'es jeune, après, c'est sûr que malheureusement, dans la rue, on a toujours des trucs à prouver. Là. Si tu ne prouves pas, les gens vont venir te chercher, mais t'as un peu plus de patience.
Ouais.
Tu sais que t'as pas besoin de... Déjà, tu sais que tu peux le faire beaucoup, ouais. Beaucoup de dégâts. Et d'un autre côté, t'es plus apaisé. Tu vois, c'est un sport où ça t'apaise. T'as plus besoin de frapper gratuitement ou de prouver que t'es le plus fort. Ou...
Ouais, exactement. De toute façon, la plupart des gros bagarreurs, quand ils commencent la boxe, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est qu'ils se calment complètement.
Ah.
Ils viennent très tranquilles, mais froids. Donc tu sens que c'est peut-être pire, déjà.
Ah.
Et le deuxième phénomène, justement, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que, justement, dans la rue, on va dire que grosso modo, t'as l'avantage, mais là, tu rentres dans une salle où les mecs, ils s'entraînent. Et pour certains, depuis plusieurs années, puisque toi, t'arrives à 15 ans, il y en a qui ont commencé bien plus tôt, et qui s'entraînent à donner des coups, à recevoir des coups.
Exact.
Ça se passe comment au début ?
Au début, c'est dur. Honnêtement, au début, c'est très, très dur. Il faut apprendre la technique. Parce que moi, au départ, je me disais, je vais entrer là-bas, je sais déjà mettre des coups de poing, je suis déjà bon à la rue. Je pense que c'est la même chose, mais ça n'a rien à voir.
Ouais.
T'arrives déjà là, tu mets un jab, tu fais une minute de shadow, t'es rincé, t'es mort, Ton premier sparring, n'en parlons pas. Je me rappelle, j'avais Anthony Chapa d'ailleurs. j'ai passé une petite dédicace, mais ça, à l'époque, quand je venais de commencer, je faisais 74 kilos.
Ouais.
J'avais un boxeur de 40 kilos qui mettait des raclés. il bougeait, jab. Tout était complètement perdu. Et ouais, c'est très très dur. Apprendre la technique, se faire massacrer, revenir, faire notre sparring, se faire taper encore, se dire ok, je ne veux pas lâcher. Et vraiment, au départ, c'est vraiment très très dur. Prendre le rythme, du moins.
Est-ce que tu te souviens si ça a pris du temps pour que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose à faire au niveau français déjà ?
Honnêtement, je vais te raconter une histoire. je l'ai raconté aussi il y a dernièrement à une interview. C'est, en plus, je repense à cette histoire. Enfin, je l'ai ressorti il y a peut-être un ou deux ans en arrière, la première fois que je l'ai sorti. Et la première fois que je l'ai sorti aussi, c'est quand je suis arrivé au club de Montargis. Et je vais te raconter l'histoire. Quand j'étais au Cameroun d'ailleurs, on a beaucoup déménagé avec mes parents. Moi, je ne sais pas combien de fois on a déménagé là, mais on a déménagé énormément de fois. J'ai tellement de souvenirs de déménagement. Manque de moyens, tu sais. Il faut payer les factures, il faut trouver des opportunités à gauche, à droite. Et une fois, on avait déménagé dans un quartier, je ne me rappelle plus exactement le nom du quartier. Et on était comme dans un immeuble avec plusieurs voisins. Il y avait une maison derrière. Et la maison derrière appartenait, nous on l'appelait le sorcier ou le marabout.
Okay.
Et le gars, il faisait paniquer le quartier parce que tous les vendredis et dimanches, il entourait son terrain de bougies. Les bougies, les grandes bougies blanches là. Et jusqu'à l'entrée, tous les vendredis et dimanches qu'il allumait, et je pense qu'il faisait des prières. Ouais. On est prié. Il faisait paniquer le monde. Tout le quartier avait peur de lui. T'avais même des mamans qui se révoltaient, qui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites? Faites du vaudou ouais. !» Et tout le monde le détestait. À chaque fois que quelqu'un le voyait, courait, on était petits, on le voyait, on se barrait là parce qu'on avait peur de lui. Et on l'appelait le marabout ou le sorcier. Et un jour, on jouait aux jeux de petits où on se touche, on court, ouais. Celui qui touche. Et une fois, on joue à ça. Je touche mon. Il y a mon pote qui me suit, je cours. D'un coup, je heurte quelqu'un. Genre, j'étais petit là, je heurte quelqu'un, un adulte. Tu vois, putain, c'est qui ? Et je monte la tête. Putain, c'était lui. il me tient le bras comme ça. Et j'étais paniqué. Je le regarde, genre, putain, je suis dans la merde. Il me sort. Petit, tu vas être un grand champion.
Oh.
Et moi, j'étais paniqué. Je continue à courir. Et juste pour dire cette image, là, ces paroles-là m'ont toujours resté depuis que je suis petit. Depuis que j'ai. Je vais avoir 7 ans.
Ah, c'était marqué.
6-7 ans, ça m'a marqué. Ça m'a toujours marqué. Je me suis dit, ah, et c'est resté dans ma tête, je vais être un grand champion. Évidemment, quand je suis arrivé en Occident, en France, comme tout jeune Africain, je me suis dirigé vers le foot.
Ouais, bon.
Et le foot, j'allais pour voir les potes, on s'amusait. Je n'étais pas aussi sérieux que dans la boxe. Et je ne dirais pas que j'avais un talent inné. D'ailleurs, j'étais dans la même équipe que Serou Gurassi. Serou,
oui, bien sûr. On était
à l'USM Montargis ensemble.
Okay.
Et lui, il a vraiment percé. Tout à coup, je vois sa carrière, je me dis, tu aurais pu durer seul.
Il marque des buts, toi.
Il marque des buts, il était bon, il était très très bon. Et j'ai commencé dans le foot. Et j'ai arrêté le foot, je suis allé dans la boxe. Et honnêtement, quand je suis arrivé dans la boxe, j'ai trouvé que j'étais à ma place.
Ouais.
Et j'ai du mal à décrire cette sensation quand tu as trouvé un sport où tu as l'impression que c'est vrai que je me suis pris des raclés au début. Mais j'ai l'impression que j'étais chez moi et le premier jour, dédicace à Eric Godet d'Alo qui va reconnaître ça. Il m'a dit alors comment t'as trouvé ça? Il dit ouais, je pense que j'aime beaucoup, je pense que je vais être champion dans ce sport. Et je lui dis ouais, j'aime Marabout au Cameroun, tu me dis que je vais être un grand champion. Il s'est foutu de ma gueule en
foire.
Eric, j'espère que tu m'écoutes que maintenant.
Le Marabout, voilà. On va le retrouver, ce Marabout. On va essayer de le retrouver.
Je pense qu'il est décédé, il était vieux.
Ouais, ouais. Ouais, mais écoute, s'il faisait des rituels et tout, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. mais c'est vrai que c'est depuis ce jour-là que je savais que j'allais percer dans le sport. Je ne savais pas quel sport exactement, mais je me disais que c'est sûr que.
Ouais, donc c'est même pas une histoire de rentrer dans la salle, découvrir tes capacités, de dire ok, je peux faire un truc. Il y avait déjà une conviction profonde.
Il y avait déjà quelque chose, du moins dans le sport. Ouais. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé dans la boxe, j'ai l'impression que c'était mon monde.
Okay.
Et la preuve était que, c'est quoi, 6 mois après, j'ai déjà des stages en équipe de France, ouais. Junior. 6 mois après mon début de boxe, là, je viens de commencer la boxe, je viens d'écouter la boxe. 6 mois après, je faisais des stages de détection en équipe de France, junior. Un an après, j'ai mon 1-1 ou 10 mois après, je crois que j'ai ma première compétition en équipe de France. Ouais. Ça allait assez vite. Et je peux dire, ouais, je me suis vraiment senti à ma place.
Bah c'est fulgurant parce que tu commences à 15 ans ah. Et à 20 ans, tu es champion de France.
C'est ça, 20 ans. En plus, non, c'est pire que ça. J'ai commencé à 15 ans. 6 mois après, j'étais deuxième français.
Ouais,
dans troisième, j'étais médaillé de bronze. Médaillé de bronze au critérium national. Parce que les juniors cadets, c'était les critérium national, c'est pas l'équipe de France.
Ouais.
C'est pas championnat de France. Et j'étais deuxième français. Non, troisième français, excuse-moi. Et après, c'est là que je commence les détections en équipe de France. Et ça allait quand même assez vite.
Très vite, c'est clair. Et puis, du coup, donc, tu fais ces résultats. T'intègres l'équipe de France parce
Exactement.
Que tu fais des stages très vite,
des
tu fais
stages
des compétitions,
très vite.
Etc.
Je fais des compétitions au début avec les juniors cadets. Ensuite, je deviens champion d'Europe junior à 17 ans. En 17-18 ans, en 2013-2012, je sais plus. 2013, je deviens champion d'Europe à Rotterdam.
Ouais, exactement.
À Rotterdam. Et ensuite, tout s'enchaîne assez. Après, après j'intègre l'INSEP.
Ouais.
L'équipe de France senior, je deviens champion européen.
Ouais, tu fais toutes les compètes et
tout. Les compètes.
Mais c'est une étape importante d'intégrer l'INSEP. Pour
exact.
Tous les sportifs de France.
Exactement.
Moi, j'ai été sportif, mais il n'y avait pas le pied-point à l'INSEP, donc comme ça, c'était réglé. Mais j'ai fait d'autres sports aussi. Tous les sportifs te le diront, en fait. C'est un peu le Graal.
C'est le Graal, c'est sûr. T'as les meilleurs Français dans chaque discipline.
Ouais.
Et c'est sûr que quand t'intègres l'INSEP, c'est une folie.
Bah, t'es quelqu'un, là.
C'est une folie. Déjà, je me rappelle, premier jour à l'INSEP, limite, j'avais mes jambes qui tremblaient. Je me disais, oh, putain. D'autant plus que, pour la petite histoire, j'avais... quand je venais de commencer à l'USM Montargis, on avait un entraîneur, Guy Vasté, qui raconte toujours la même histoire, la même histoire dans la salle, tous les soirs, sa même histoire. Ouais, genre l'équipe de France, j'étais à l'INSEP, on a fait ça, on a envoyé ça. Et il nous a fait rêver, il nous faisait rêver. L'équipe de France, l'INSEP, les voyages, les ça. Et quand je suis arrivé là-dedans, je suis comme, ah putain, enfin. C'est l'histoire d'INSEP que j'entends parler depuis. Ça faisait 3 ans. 3 ans maintenant que j'entendais parler de l'INSEP.
Non-stop, ouais.
Non-stop, et là, je suis comme enfin, j'y suis.
Ouais, on te parle de l'objectif, du Graal, parce qu'en foot, on parle de Clairefontaine, surtout pour ceux qui sont en région parisienne, même le reste de la France. On te dit, si tu veux faire du foot, si tu as Clairefontaine, c'est que tu devrais atteindre le haut niveau, même si ce n'est pas totalement vrai. Et puis, tu as l'INSEP pour le reste des sports, les sports olympiques, etc. Ou pareil, tu vois, moi, je fais beaucoup de judo, donc pareil, moi, très jeune dans ma vie, on me parlait de l'INSEP. C'était un petit peu le truc à atteindre.
Et
quand tu arrives... Est-ce qu'il y a déjà des boxeurs que tu connais? Ou alors tu arrives comme le petit nouveau qui va devoir faire sa place?
Il y a des boxeurs. Je sais qu'il y avait des boxeurs avec nous. Déjà, j'étais en équipe de France cadet, junior.
Ouais.
Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas de centre attitré. C'était uniquement des regroupements.
Okay.
Maintenant, ils ont un sommet. Quelques années plus tard, ils ont eu un centre à Nancy. Mais à l'époque, on n'avait pas de centre. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs, déjà, juniors, cadets, on se côtoyait entre nous, on a fait des stages ensemble. Et quand on est passé senior, la génération d'après, il y avait quelques-uns qui sont passés senior à l'INSEP aussi, qui ont été acceptés, qui avaient le niveau d'être à l'INSEP. Il y avait Samuel Custeyuri, il y avait Sofia Noumia.
Ouais.
Avec qui d'autre? Il y avait quelques boxeurs, évidemment, je connaissais des boxeurs seniors de nom qui étaient déjà en senior, comme Suleiman Soko, Tony Yoka, qu'on rencontrait de temps en temps, on faisait des stages avec des seniors. Et c'est sûr que je connaissais pas mal de boxeurs de nom et des boxeurs que j'ai côtoyés en équipe de France junior.
Ok, et quand tu arrives, du coup, là, tu es à l'INSEP, en équipe de France, donc là, tu vas passer en senior. Là, on commence à te parler de choses sérieuses.
Ah ouais, là, c'est sérieux.
Robes, du monde.
D'autant plus que moi, je suis pas senior, je venais d'être champion d'Europe junior. Forcément, tu as une pression un peu supplémentaire et tu as les seniors en face. À l'époque, c'était Michel Tavares, dédicace à lui déjà, d'ailleurs. Et j'ai oublié son nom, Rachid Amani.
Ouais.
C'était un numéro 1, numéro 2,
ouais,
moi, numéro,
et moi,
numéro 3 qui arrive, le petit junior, là. En plus, à l'époque, je me rappelle ces enfoirés. On faisait un stage à Buja.
Ouais.
On préparait une compétition, je crois qu'on préparait une compétition juste avant les championnats d'Europe. on préparait une compétition à je sais plus où, on faisait un peu les mises de gants avec les seniors. Et ces enfoirés, ils appuyaient. Et je rappelle, il y avait Tavares et je pense que c'était Rachid. Et ils nous tapaient, mais vraiment comme des seniors, là. Ils n'allaient pas de main morte. Et je suis bien content parce que juste après, je me suis vengé. Quand je suis passé chez les seniors, là, je me suis bien vengé. Mais ouais, ouais c'est sûr que quand tu viens de passer senior, forcément, les seniors, ils vont être à ta place directement. Là.
Bah, en fait, les places sont chères.
Reste ça, le petit, ouais. Les petits sparring qui sont censés être des petits sparring, t'inquiète pas, qui sont là pour t'allumer.
Ouais, bah oui. Bah, le truc, c'est qu'il y a les grandes compétitions. Il y en a qu'un qui peut y aller à chaque fois. Donc, il faut protéger sa place le plus possible.
Exactement.
Ils te voient arriver, ils t'ont déjà vu, ils ont entendu parler de toi. Donc, ils se disent, attends, faut pas que le jeune, il prenne ma place.
Exactement.
Pour les autres sports, c'est pareil. Le petit footeur qui arrive à 17 ans, dans les cirques professionnels, qui dit, bah, moi, je vais prendre votre place, tu vois. Donc,
exactement.
Je comprends que t'arrives et que tu sois une menace pour eux. Surtout que t'as un boxeur qui fait déjà parler de lui. Puis surtout, il y a les entraîneurs. Il y en a un qui va compter beaucoup.
Exactement.
Énormément.
Ouais, John.
C'est John Dovey.
Exactement.
Tu te souviens de ta première rencontre avec John?
John Dovey, je me souviens, bah justement, c'était un stage à l'INSEP. C'était un stage à l'INSEP à l'époque, j'étais encore en junior. J'étais avec qui je m'entraînais. C'était qui le coach à l'époque? Merde, j'ai oublié le nom, il va me tuer. À l'époque, j'ai oublié le nom, je me rappelle après, il y avait un coach en junior et on faisait un stage à l'INSEP. Et je rencontre John dans son bureau parce que l'INSEP, pour aller vers la salle, il faut passer vers les bureaux, les coachs. Quand John, il me dit bonjour et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui marche à l'énergie. Mm-hmm. Quand je dis bonjour à quelqu'un, je sais déjà l'énergie si on va bien s'entendre ou pas. Et j'ai dit bonjour à John et j'ai senti cette énergie. Oh putain, lui, serait bien mon pote. À l'époque, j'étais jeune, là, ouais. J'étais avoir 17 ans. Et j'ai dit putain, lui, déjà... La main était solide, le coup de main était solide, et tu vois, l'énergie est bien passée, je sentais le truc. Et après, quand je suis devenu senior, c'était lui l'entraîneur principal, on a vraiment eu cette connexion où il m'a un peu pris sous son aile.
Ouais, et puis on voit tout de suite que ça fonctionne. Hein.
Ah, exact, exact.
Mais elle prend, à l'entraînement, on ne vous voit pas, mais en tout cas, en compétition, on voit que ça marche bien. Vous marchez ensemble, et puis on arrive rapidement, en fin de compte... Aux Jeux Olympiques, mais avant d'arriver aux Jeux Olympiques, toi, tu arrives en tant que boxeur, jeune boxeur, junior, passe senior, qui a eu toute une formation à Montargis, et cette formation, on la poursuit donc à l'INSEP. Qu'est-ce que John, il t'apporte en plus de ce que tu sais déjà faire?
Honnêtement, c'est plus le côté haut niveau. C'est sûr que les clubs font un travail, les clubs en général font un travail incroyable, mais le côté haut niveau, c'est autre chose. Que ce soit technico-tactique, tout ce qui est combinaison, gérer les trois rounds de chez le club à Montargis, les trois rounds à l'INSEP, ça n'a rien à voir. Techniquement, physiquement, ça n'a rien à voir au niveau des accélérations. Et John, ce qui fait en sorte que John, il a su analyser directement mon profil de boxeur, j'étais assez petit, justement par rapport au boxeur type amateur qui est long, qui met des jabs, qui touche. Il a su directement analyser mes points forts, mes points faibles pour pouvoir améliorer un peu ma boxe. Tout de suite, m'a pris son aile. Ok, t'es petit, bouger la tête, travailler en combinaison, bouger. Et il a vraiment su me décortiquer, m'apporter dès le départ ce qu'il me fallait.
Ouais, ça fonctionne. Là, comment tu décris le style qu'il faut que tu puisses reproduire, on est obligé de penser à Mike Tyson.
Exact.
C'est un modèle un petit peu pour toi.
Bah, c'est un modèle pour moi, sûr qu'au début, bah, pour la petite histoire, Mike Tyson, quand j'ai commencé la boxe, j'étais allé à Montargis, la petite histoire que je suis rencontré, je regardais du Mike Tyson. Moi, je regardais du Mike Tyson, les highlights, là, il mettait des KO. Je me suis beaucoup inspiré de lui, hein, au début de ma carrière, du moins. Après, plus ta carrière avance, plus tu te rends compte qu'en fait, il faut que tu crées ton propre style. Ouais. Tu peux copier à gauche, à droite, mais en même temps, il faut que tu mélanges tout ça pour faire ton propre style à soi, parce que Tyson, je n'ai pas la puissance à Tyson. Je suis Christian Billy, j'ai quand même une puissance respectable, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques niveau physique.
C'est une façon très humble de le dire, mais oui, il y a beaucoup de puissance qui se dégage.
Il y a beaucoup de puissance, on n'est pas dans la même catégorie.
voilà, c'est pas pareil.
On n'a pas les mêmes adversaires parce que Tyson, les poids lourds, un combat de poids lourds et un combat de super moyen, ça n'a rien à voir.
C'est pas pareil.
Ça fait en sorte que, bah, au bout d'un moment, tu continues quand même à regarder, mais tu te détaches petit à petit avec la réalité qui s'impose à toi.
Oui, bien sûr. Et puis ensuite, avec cette évolution et ce style et cette c'est pas facile parce que même, j'imagine que tu avais commencé à te construire quelque chose en venant de Montargis, ouais. Et que là, maintenant, il faut essayer de suivre les préceptes que John va.
Surtout les préceptes d'équipe de France.
Ouais.
Je pense qu'il y a vraiment un choc. Quand tu arrives en équipe de France, c'est un travail complètement différent. C'est complètement différent. Je me rappelle, on mettait, j'ai jamais vu ça, on mettait des dizaines de rounds sur. Mettre un bon jab,
oui.
Mettre la droite, on va passer dans une heure d'entraînement, on va passer 5-6 roues, on avait de la faire une combinaison, 1, 2, 3, esquive.
Ouais.
C'était long, je me rappelle, je détestais ça. Faire le 1, 2, 3, tourner, faire ça à la perfection, c'était long. Et c'était vraiment ce travail de précision, bien travailler la technique, bien travailler le technico-tactique, et c'était très très long.
Ouais, c'est vrai, mais encore une fois, c'est l'équipe de France, c'est le format amateur.
C'est l'équipe de France, c'est ça, format amateur.
Il y a tout un critère de notation,
technique,
tactique, etc., qui est différent des professionnels. Mais ouais, je ressens la frustration parce que j'ai toujours, moi en tant que coach, analysé qu'il y a deux types de combattants. Il y a ceux qui sont, qui aiment bien s'exprimer.
Exact.
Voilà, qui sont assez freestyle.
Exact.
Il y a ceux qui aiment bien l'entraînement, faire beaucoup de ce qu'on appelle de drill, faire de la répétition, parce que c'est comme ça que ça rentre.
Bah après, est-ce que le drill, c'est pas mal. Moi, faut savoir que l'équipe de France est vicieux. Parce que tes drills que tu vas faire, toi, t'es numéro 1, mais tu le fais avec le numéro 2,
oui.
Voire le numéro 3. Et c'est pas des drills 1, 2, 3, on va aller doucement, on va en. Non, le gars, il te massacre. Son 1, 2, 3, là, il va te mettre toute sa puissance.
Ouais.
Mais toi, derrière, t'as envie de repousser, tu dis comme, hey, calme-toi. Et c'est pour ça, je déteste les parce que pour moi, tu prenais des coups bêtement.
Okay.
Tu prenais des coups bêtement. Il va dire, mets 1-2. Normalement, tu vas mettre un 1-2, mais tu vas essayer quand même de pas trop. L'autre, il va te mettre 1-2, boum, il va te mettre une droite. C'était Rachid Amani, l'enfoiré.
Encore lui.
Son 1-2, en plus, il avait une droite qui faisait mal.
Ouais.
1-2, boum. Tu es comme, putain, mais vas-y doucement. Et ça fait en sorte que les cours qui devaient être techniques, finalement, c'est plus désagréable. Parce que
pas tant que ça.
L'autre, il met le 1-2, mais toi, tu l'esquivais, mais tu ne veux pas revenir derrière. Donc, lui, il en profite pour mettre des gros coups, pour voir qui est puissant. Ça, j'ai jamais aimé ça parce que c'est frustrant. Tu te dis 1-2, je serais revenu avec un crochet pour te calmer, toi. Mais après, c'est un.
Ça prend la discipline aussi.
Ça prend la discipline. Et c'est ça, mais en même temps, en plus, moi, ce qui est encore plus pervers de mon côté à moi, c'est que il y a un moment, les deux premières années, il y avait la concurrence, mais après, je suis resté numéro 1 pendant plusieurs années. J'étais tout seul, il n'y avait pas numéro 2. Donc, ça veut dire que je faisais des drills avec les mi-lourds.
Ah oui.
Et ça me faisait chier.
Ouais, tu prends beaucoup. Mais ce que tu me dis là, en fait, c'est que par rapport déjà au fait que tu dois venir gagner ta place pour devenir numéro 2, numéro 1, et puis ensuite protéger ta place de numéro 1.
Exact.
Voilà, en l'occurrence. Malgré tout, vous êtes censé être une équipe.
Oh, une équipe. Une équipe, à part qu'on s'arrive à l'entraînement. Après, quand c'est une mise de gants, arriver dans les cordes. On est une équipe, mais après.
ça causait pas trop de friction, justement, ces choses-là.
Non. Après, c'est sûr que, on va pas se mentir, quand c'est dans ta catégorie, y a pas, tout le monde est cordial, il n'y a jamais de problème. Mais tu sais, quand c'est le numéro 2, il y a toujours une distance.
Ouais. Quand même.
En tout cas, avec moi, j'ai toujours senti comme ça. Que ce soit numéro 2, numéro 3, il ne va pas être ton poteau. Là. Tu ne vas pas aller. Vous n'allez pas sortir le vendredi. Des mois d'après entraînement, on sort. Non. Tu sais que potentiellement, il veut ta place. En tout cas, moi, c'est toujours été comme ça. Potentiellement, il veut ta place. Je le respectais. C'est normal, mais ça ne va pas être mon meilleur poteau non plus. Tu vois. Dans d'autres catégories, on a déjà eu des meilleurs poteaux où on sortait. On allait faire des cheat meals ensemble. Mais. C'est sûr que il y a quand même une certaine limite parce que tu sais que je l'ai toujours vu comme ça, ça me dérangerait de taper quelqu'un sur le ring que je sais qu'on est en train de chiller ensemble.
Ouais, juste avant. Ouais.
Deux trois jours avant.
Tu préfères garder cette distance.
Garder cette distance parce que je me dis non, moi je vais être à 100% le jour que je vais le rencontrer là. Je vais pas me dire
pas de doute, pas d'état d'âme.
C'est ça.
Ouais. Parce que moi, j'aurais essayé de rentrer dans ta tête un peu. Ouais,
mais c'est ça.
T'étais ma manette, Christian.
Honnêtement, tu rigoles, hein, mais il y a plein de boxeurs qui ont fait ça.
Bah, oui.
Moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup l'environnement. Et je regardais les numéros 1, numéro 2, où je voyais qu'il y avait un jeu mental qui se mettait en place. Et je regardais, mais l'autre, ils ne se rendent pas compte que l'autre est déjà en train d'entrer dans sa tête. Ils ne se rendent pas compte que La finale de France, ça, il est déjà en train de gagner. Ouais, là. Ouais, prends-moi une photo, prends-moi ça, oui, va me chercher ça. Et je suis comme, et je regardais ça, j'analysais ça, je me disais, ils sont cons. Et c'est comme ça. Après, moi, c'est pas mon genre de faire ça, mais c'est comme ça.
Et dans cet environnement-là, justement, t'arrives quand même à te créer des potes, des affinités. C'était qui tes potes à ce moment-là, avant d'arriver justement à ces Jeux Olympiques ?
Avant d'arriver, on avait une team, il y avait Maxime Dovigno.
Ouais, Maxime, je connais très bien.
Maxime Dovigno, ouais. Il y avait... merde, j'ai oublié son nom. Ah putain, il y avait qui, j'ai oublié son nom. On avait dit, ah putain.
Ça reviendra.
Ça va revenir. Ouais. Marcus Gévia.
Ok.
Marcus Gévia, à l'époque, c'était un petit 40-48 kilos. Marcus Gévia, il y avait quelques boxeurs aussi, enfin quelques boxeurs d'autres disciplines aussi.
Ouais, bah oui, parce que l'INSEP, il y a toutes les disciplines olympiques.
Nous, hein, dans notre étage, dans notre bâtiment, il y avait des lutteurs, il y avait des judokas, des gens de taekwondo et des scrim. Et on était à une bande où on était 2-3 boxeurs, plus d'autres disciplines. On avait l'habitude de traîner ensemble le week-end à Vincennes ou dans Paris. Dédicace à Châtelet, où on allait dépenser nos petits salaires de boxeurs en équipe de France.
Ouais, donc du coup, ça crée quand même de la cohésion malgré tout.
C'est ça, c'est
tout. Tout ça, en fait, culmine avec les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, au Brésil.
Exactement.
Et vous arrivez en mode team solide.
Team solide.
En fait, vous êtes les Avengers.
C'est ça. Si tu veux, la team solide, ça s'est construit au fur et à mesure des tournois en équipe de France.
Ouais.
Je dis toujours que je vais raconter l'histoire de la team solide.
Ouais.
En général, la première personne qui a sorti le mot solide, c'était Eli Conky.
Ok.
Eli Conky, c'était exactement. C'était au tournoi de. C'était le tournoi de Halle. Tournoi de Halle en Allemagne. Mm-hmm. Et il faut savoir que moi, les moyens, 75 kilos en boxe olympique, je ne sais même plus si c'est encore cette catégorie, mais à mon époque, c'était les moyens en boxe olympique, on était la catégorie la plus blindée.
Oui.
On était tellement nombreux.
Beaucoup de combattants des pays de l'Est.
Beaucoup de combattants, et à chaque compétition, si tu veux, en fonction du tournoi, quand tu arrives à un tournoi, en fonction du nombre d'inscrits dans chaque catégorie, il y en a qui commencent en 8e, il y en a qui commencent en quart de finale, il y en a qui commencent en 16e. Et moi, je suis toujours le premier entré, parce qu'en moyen, j'étais toujours blindé.
Ouais.
Et à chaque fois que je faisais le premier combat, c'est une guerre de fou. Du coup, ça motivait les gars derrière.
Ouais,
moi, ça met une ambiance de fou.
Ouais.
Et c'est comme ça que Eli, une fois, je sortais de mon premier combat, et Eli qui vient me dire « Ah, solide !» Et il a continué à m'appeler solide au fur et à mesure. À chaque tournée, il me surnommait solide. Non, c'était solid boy. Solid boy, okay. Exactement. Solid boy. Et c'est après qu'on a repris le mot solide pour encourager l'équipe. Allez, solide, allez, envoie. Reste solide. Et c'est comme ça que le mot team solide est arrivé.
Et vous arrivez en solide à Rio avec des ambitions, parce que vous avez tous fait quand même des résultats dans des tournois importants au niveau européen, au niveau mondial aussi, hein, parce qu'il y a plein d'autres tournois. Et donc, les fers de lance, c'est Tony Yoka, Estelle Mosley qui arrivent... En tant que champion du monde et potentiellement médaille d'or.
Ah.
Et on a aussi, il y a toi, du coup, il y a Souleymane Sissoko qui est le capitaine.
Ah, exact.
Et il y a Mathieu Baudarlik, il y a Sofiane Noumi, enfin, il y a
grosse équipe. Grosse équipe.
Est-ce qu'il y avait un objectif de médaille d'or ? Genre, tout le monde repart avec la médaille d'or ? Enfin, c'était quoi le truc ? Comment vous arrivez dans ces JO, en fait ?
Comment j'arrive dans ces JO ? Après, je pense que chacun a plus ou moins ses objectifs. C'est sûr que l'objectif d'un athlète, déjà, au début, déjà, c'est de viser la médaille.
Ouais.
Évidemment, tu vises la médaille la plus haute. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il te faut une médaille. Et ensuite, dépendamment de comment ça se passe, tu vas viser médaille de bronze, ouais. Médaille d'argent, médaille d'or. Mais c'est sûr que on est tous partis là-bas en mode on va ramener le maximum de médailles qu'il faut. Et on était vraiment dans cette terre d'esprit-là, d'autant plus que, comme tu l'as dit, on était une équipe d'assassins.
Ouais.
Je me rappelle, pour la petite histoire, moi, ma génération à moi, quand je suis passé senior, mes premiers tournois que j'ai faits, on regardait les Russes, on regardait les Allemands, on regardait les Ukrainiens, on était un peu, tu vois, on était, il y a les Ukrainiens, il y a les Russes. trois ans après, c'était, il y a les Français, les ouais. Français sont là, les mondes nous regardaient, ah, putain, ils sont là. Et tu vois, le changement lieu de, d'ambiance déjà en 2-3 ans, et à chaque fois qu'on arrivait dans les tournois, tu regardais les nations, nous regardaient, oh, putain, les Français sont là, ça va être sûr, ça va être chaud.
Ouais, bah oui.
Et on arrivait, ça fait en sorte qu'on arrivait au jeu en mode, on va tout défoncer. On, ouais. on a les capacités, on est parmi les meilleurs au monde. On arrivait quand, en mode, on va tout casser. La team solide était là pour vraiment tout ramasser, tout soulever, prendre tout ce qu'il y avait à prendre.
Non, c'est vrai, l'ambiance a été différente. On avait eu des résultats dans d'autres Olympiades précédentes, hein, notamment Daoud Asso et Kadhafi Djelkir qui avait pris des médailles, tout ça. Donc, Péa Sonam, Alexis Vastine aussi qui a eu des vols, mais qui aurait dû avoir des résultats. Donc, on savait qu'on était bon, mais c'est vrai que l'ambiance, elle était différente. Là, à l'approche des JO de Rio, les observateurs, moi, j'étais déjà vraiment... Ah. J'observais de très près les JO, enfin, tous les sports de combat, mais les JO en particulier en boxe. Et là, ouais, l'ambiance avec les autres, parce que j'avais pas mal d'autres observateurs d'autres pays, donc on discutait toujours. Ils disaient, ouais, la France, cette année, vous êtes chaud. Je pense que vous allez faire gros résultats et tout.
On a vu une équipe de malades. On avait...
Et puis, si tu veux, en regardant, moi j'ai quand même regardé les championnats du monde l'année précédente, j'ai regardé certaines compétitions amateurs pour pouvoir savoir à quoi on allait s'attendre pour l'équipe de France. Et la première chose que je me dis, et j'ai fouillé, mais j'arrive pas à faire mes recherches comme il faut sur Twitter, mais je vais réussir. Je te regarde boxer et je me dis, ce gars-là, pour les amateurs, je sais pas, mais pour les pros, ça va être un truc de fou. Moi, c'est la première chose que je dis, en fait.
C'est vrai. Et justement, c'est. C'est un peu l'image que j'avais dès le départ, parce que moi j'ai un style très pro,
ouais.
Axé sur l'attaque, axé sur la pression. Et c'est un peu la raison du pourquoi j'étais vite repéré à l'international avant de passer professionnel. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours un style très professionnel, je te l'accorde.
Et on voit pendant ces JO, pendant cette Olympiade, où tu vas jusqu'en quart de finale, où on voit que c'est puissance, déplacement, voilà, on est en dessous, on est bas sur les appuis, on essaie de faire très mal. À mon sens, ta KT et celle de Tony, c'était peut-être les plus relevées du tournoi.
Ah.
Parce qu'il suffit de voir le résultat des poids lourds, la KT de Tony, ils sont tous devenus champions quasiment. Ils se sont tous tirés la bourre en Angleterre pendant des années, ils le font encore. Et chez toi aussi, dans ta catégorie, en moyen, il y a vraiment beaucoup de monde. La plupart sont passés professionnels. Et il y en a qui n'ont pas pu devenir champions parce qu'il y avait des mecs qui étaient déjà trop forts dans cette catégorie. Donc, tu vois, c'est et il y a eu beaucoup de médailles. Tony, Estelle, Sofiane, ça a vraiment bien marché. Toi, donc, tu finis en quart sans médaille. Je n'ai pas besoin de te poser la question. J'imagine que la frustration, elle est réelle.
Ah, réelle, plus que réelle. Et j'étais. Je crois que c'était le pire moment de ma vie.
Ouais.
J'étais vraiment, mais. C'est vraiment. En plus, avant ça, il faut savoir que les Olympiques, ça se prépare sur 3 ans.
Ouais, c'est long.
Et je pense que j'ai été parmi. Sûrement, hein, peut-être Sofiane était un petit peu au-dessus, on était égal, je ne sais plus. Mais j'étais parmi le boxeur le plus médaillé dans chaque tournoi qu'on a fait. Dans chaque tournoi qu'on a fait, j'étais soit, mais je crois que c'est une fois que j'ai dû faire médaille d'argent, je suis resté invaincu pendant 2 ans. J'ai enchaîné.
J'ai enchaîné
des tournois, médaille d'or, médaille d'argent une fois. Mais. Et quand tu arrives dans le plus gros tournoi, il faut que tu performes et que là, ça chute. J'étais dégoûté, j'étais vraiment dégoûté. Je dirais même que j'ai fait une mini dépression quand je suis sorti de là. Dieu merci, j'avais quand même l'aventure au Canada qui m'attendait. J'ai pu me relever un peu en me disant que c'est pas grave, tu as une deuxième partie de ta carrière qui va commencer. Une aventure excitante qui s'annonçait. Mais ouais, j'étais déçu. J'étais dégoûté. Je me rappelle à l'époque, il y avait quand on a quitté Rio avec l'avion, on arrivait, tout le monde on va à l'Élysée, le président, tout le monde était invité à l'Élysée. Je suis quand même allé à l'Élysée, moi je rentre chez moi. Je rentrais chez moi, je voulais rien savoir d'aller fêter à l'Élysée les médailles, tout ça, et j'étais vraiment dégoûté.
Ouais, non, mais j'imagine, hein, Mathieu aussi, hein, qui a fait une médaille, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais bon. Écoute, comme tu l'as dit, c'est vrai que, enfin, moi, j'ose même pas imaginer. Je ressens en plus la frustration, là. Je crois qu'on est en train de la revivre un petit peu ensemble, donc c'est clair que ça doit être difficile, mais en même temps, c'est le début aussi d'une autre
c'est
très
ça.
Belle aventure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, tu avais déjà le style professionnel en amateur, et tu te fais repérer. Ah. Je pense que tu as pas mal d'options en sortant des Jeux Olympiques. Et toi, tu choisis d'aller au Canada avec Yvon Michel.
Exact.
C'était... Est-ce que c'est la meilleure offre financière ou est-ce que c'est le meilleur environnement
c'était la, pire, c'était la pire offre. C'était la... Mais honnêtement, mais après, je dirais que j'ai appris après que j'ai mal négocié mon contrat. Okay. J'ai fait du mieux que je pouvais. Avec John, on a fait du mieux qu'on pouvait. John était là pour m'épauler. Mm-hmm. Pour le contrat que j'ai fait avec Yvon Michel à l'époque. Mais il faut savoir qu'à l'époque, moi, je suis allé au Canada, pas forcément pour Yvon Michel, pour travailler avec Marc Ramsey,
le coach.
Marc Ramsey, il m'a repéré, enfin, du moins, il m'a contacté après que je sois devenu champion d'Europe senior. C'était juste avant ma qualification, lors de ma qualification.
Ah oui, donc très tôt.
Okay. Très tôt, c'est un an avant les Jeux. Et il m'a dit, écoute, il m'a écrit sur les réseaux sociaux. Et moi, je le connaissais déjà parce que je suivais un peu la carrière Jean-Pascal. À l'époque, Jean-Pascal venait de combattre... Non, c'est pas Marcus Brown, c'est l'anglais, le black, j'ai oublié son nom. Jean-Pascal venait d'être champion du monde, avec un KO spectaculaire. Ouais. Et là, je connaissais son coach un peu, parce que justement, Jean-Pascal, je suivais sa carrière, ses combats, et je voyais le coach. Et quand j'ai devenu champion d'Europe, je vois Marc m'écrire sur Facebook. Je lis ça, je dis, oh putain, c'est qui ça? Je dis, mais c'est l'entraîneur de Jean-Pascal. Je dis, oh putain, j'étais aux anges, je me fous. Et il me répète, il me dit, écoute, ça fait plusieurs années, parce que lui, il fait encore ça. Et c'est drôle parce que je le vois encore dans son bureau repérer les amateurs. C'est comme ça qu'il va repérer l'enfoiré. Et il fait toujours ça, il repère, parce que lui, il est le sélectionneur, enfin pas sélectionneur, celui qui repère les talents pour une autre promotion, Ivor Tiger.
Ouais, exactement.
C'est lui qui signe, c'est lui qui donne son accord pour que lui, il a le niveau, lui, il n'a pas le niveau, lui, okay, il signe. Ouais. Et ça, il me dit, écoute, Christian, ça fait plusieurs années que je suis chez les amateurs, félicitations pour ta qualification aux Olympiques, on aimerait ça travailler avec toi, je travaille avec Jean-Pascal, je travaille avec ça, on a fait plusieurs champions du monde, si ça t'intéresse, fais-moi signe et on peut se caler un rendez-vous, on peut se faire quelque chose. Et évidemment, j'ai dit oui, évidemment, je vais m'entraîner avec toi, évidemment, je suis pas professionnel. Et ok, c'est arrivé. Il m'a invité à New York. Il m'avait invité à New York à l'époque. Ils ont mis le paquet, les enfoirés. Gros hôtel.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Gros hôtel vu sur Central Park. À l'époque, c'était le combat Sean Porter face à Thurman.
Super combat.
Ils nous ont invités là-bas. On avait des places ringside. On a vu le combat, ensuite il a bien su me flatter et c'est là qu'on a parlé un petit peu. Et ensuite, après les Jeux, il a vu le combat, il a vu mon combat où j'ai perdu. Il m'a dit, écoute, après New York, il m'a dit, écoute, concentre-toi sur les Jeux. Après les Jeux, on en rediscute. Je t'inviterai à Montréal pour qu'on en parle, éventuellement ce qu'on peut faire ensemble. Je suis allé aux Jeux. Malheureusement, je perds en quart de finale. Il m'appelle. Écoute, j'ai vu ton combat, très très beau combat. Même si je te voyais pas perdre, très très beau combat, très belle prestation. Et il nous invite par la suite en septembre. À Montréal. À Montréal en septembre. Juste après les Jeux, c'était quasiment un mois et demi, deux mois après, nous invite. Et,
donc, en fait, t'as eu le temps d'avoir d'autres offres. T'avais des autres offres sur la table. Ouais, quand même. C'était qui ou quoi?
À l'époque, il y avait des Américains.
Okay.
Il y avait des managers.
Okay, ouais.
Ça, je peux pas donner suite. Il y avait des managers, deux, trois managers qui voulaient donner. Parce que moi, il faut savoir que avant les Jeux, j'avais déjà quasiment pris ma décision d'aller avec eux.
Ouais, bah, si t'as contacté aussi.
Moi, pour voir ce qui se passait, à part s'il y en avait un qui se ramenait avec 10 millions, là, ok, signe avec moi, là, ok, là, j'aurais signé. Mais là, ma décision était quasiment prise. Je vais aller avec eux, c'est comme ça. En plus, moi, encore une fois, je marche à l'énergie. Okay. J'étais comme, non, là, je sentais que mon destin était par là.
Voilà, donc tu sentais que même si tu te faisais éliminer, comme tu t'es fait éliminer, précocement, ça remettait pas en cause.
Il m'a fait sentir que ça remettait pas en cause.
Okay, donc tu as pas eu peur de ce côté-là, quoi.
Non, il m'a fait comprendre qu'écoute, le monde amateur c'est le monde amateur, le monde professionnel c'est autre chose.
D'accord.
Tu peux être très bon en amateur, arriver chez les professionnels et te casser la gueule et comprendre que c'est pas le même monde. Et il m'a rassuré, il m'a dit écoute, je t'invite telle date pour voir, pour que tu visites nos infrastructures à Montréal, voir comment on fonctionne et voir comment on peut travailler ensemble.
Okay.
Et à l'époque, John d'ailleurs, j'ai dit, John, on m'invite, tu m'accompagnes. Et c'est ça, et John m'a beaucoup aidé là-dessus. On est allé, on a visité, on a regardé et on a senti un peu, voir l'environnement, voir les coachs, voir la préparation physique, voir les bureaux, voir tout ça. Et après ça, j'ai signé le contrat. Pour repartir, je suis arrivé là-bas au mois de janvier 2017.
Janvier 2017, okay. Ouais. Y avait des offres françaises ?
Évidemment. Évidemment, il y avait des offres françaises.
Il n'y a pas 36 noms, du coup ?
À l'époque, il y avait beaucoup. Mais à l'époque, justement, il y avait plein.
Ah ouais ? Quand même.
Justement, je te dis, après les Jeux de 2016, Rio, la boxe, c'était le foot.
C'est devenu fashion.
Mais ça se battait. Il y avait Canal à l'époque, il y avait RMC, il y avait combien ? Il y avait Assoumé 20, il y avait, comment il s'appelle, le gars de Arès, l'ancien promoteur, la carte Mac Arès.
Arès.
Alors, Marc Arès. Ernest.
Ernest.
Malamine Kone était là. Okay, ouais. Il y avait Acariès, Sébastien. Et il y avait qui ? Il y avait un petit promoteur aussi, en gros. Mais en gros, pour te faire simple, il y avait Canal et RMC qui se battaient pour le maximum de boxeurs. Et après moi, j'avais deux, trois demandes aux États-Unis. Je crois qu'il y avait aussi un manager allemand qui m'avait contacté, mais ça, je n'avais pas donné suisse, je n'avais même pas calculé. Et ouais, ça se battait. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'argent. Là. À l'époque, à l'époque, Canal, RMC, ça alignait. Je me rappelle.
Et ça te fait pas trop mettre en question par rapport au choix que tu as fait un an avant, du coup ? C'est difficile pour un jeune boxeur de dire là, il y a de l'argent, tu vois.
C'est vrai. Et juste par exemple, je me rappelle, à l'époque, j'ai discuté justement avec John, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Qui m'a beaucoup soutenu aussi dans ma décision. À l'époque, on regardait un peu les premiers combats que je proposais en France. Les premiers combats, c'était aux alentours de 35 000 euros. Le premier combat.
Ouais.
Les primes à la signature, on n'avait pas encore commencé à négocier, mais on pouvait monter ça facilement à 100 000, les primes à la signature.
Okay.
Et c'est sûr, c'est beaucoup d'argent.
Ouais.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est vrai que ce côté-là, mes parents n'ont pas forcément compris au départ. Mmh. À l'époque, je suis en équipe de France. En équipe de France, j'étais quand même devenu, j'étais champion d'Europe. J'ai fait des jeux. Je pouvais aller chercher plus l'équipe nationale, mon club. Je pouvais aller chercher un revenu de, 4-5 000 par mois avec l'équipe de France, ou passer professionnel avec une prime à la signature à 100 000 plus 35 000 au premier combat. Bah, tu sais quoi? Je suis passé au Canada. J'ai signé pour 30 000 $ canadiens, l'équivalent de 20 000 euros.
Par combat ?
Non.
Ah, comme prime à la signature ?
À la signature.
Ah ouais ?
Et mon premier combat, c'était 5 000 $ canadiens, l'équivalent de 3 000 euros.
Ah oui !
Et
tout ça, c'était dans le contrat ?
Tout ça, c'est dans le contrat, c'est mes premiers combats.
J'ai envie de... Ben, pourquoi, Christian ?
Et c'est sûr que quand j'annonçais à mes parents, c'est sûr, les parents, déjà, enfin, un sport dangereux, et en plus, tu veux t'expatrier dans un autre bout du monde.
En plus, ouais.
À faire un sport dangereux. Et c'est pas forcément la meilleure offre, c'est comme, sûr, ils n'ont pas tout de suite compris. C'est comme, t'es l'équipe de France, tu fais tes études, tu gagnes de l'argent, t'as l'argent de poche, t'es nourri, logé, blanchi à l'INSEP. Mm-hmm. Et en plus, ici, en France, t'as moyen d'avoir un meilleur contrat. Mais je sais pas, c'est encore une fois, j'ai suivi mon instinct. Je
me suis dit, c'est l'énergie dont tu parlais tout à l'heure.
C'est ça, comme je disais, pour moi, j'étais persuadé que mon destin était là-bas.
Ouais.
Et j'ai fait mon choix. C'est vrai que il y a eu des années où j'ai douté. Mmh. Il y a eu des années où j'ai douté, je ne vais pas revenir sur les bourses ou sur les primes à la signature de tous les boxeurs, que ce soit l'équipe de France, tous les autres boxeurs qu'ils ont eu. C'est sûr que c'est des gros montants.
Oui.
Tu passes à côté de 100 000, tu passes à côté de 35 000 des premiers combats.
Ouais.
4 rounds, hein.
Ouais.
35 000.
T'imagines.
Et,
un combattant français.
Hein, un combattant français. Et moi qui va me taper un 5 000 $ canadien équivalent de 3 000 € le combat.
Ouais.
Et il y a eu des moments de doute, et surtout quand j'ai douté de ça pendant la pandémie. Tu sais, quand la pandémie est arrivée, tout était bloqué. On boxe plus, on n'a plus boxé pendant un an ou quasiment un an. Et je me disais, j'aurais peut-être dû choisir les 100 000, 35 000 par combat, j'aurais peut-être. Mais Au final, ça s'est bien fini. Maintenant, je suis champion du monde. Donc, je suis bien content d'avoir pris cette décision.
Quand on parle de destin, ouais, on voit ce qui est venu au bout. Ouais. On peut que dire que tu as eu raison.
C'est sûr,
j'imagine que oui, sur le chemin.
Ouais, sur le chemin, tu as des moments de doute, c'est normal.
Et puis les gens, ils se privent pas en général.
C'est ça.
Tu te rappelles que tu as fait peut-être pas le bon choix.
C'est ça. Et d'autant plus que tu vas dans un environnement où tu connais personne. Ouais. Tu es au Canada, il faut que tu fasses des nouveaux amis. Tu reconstruis une vie.
Il y a ça aussi, Christian. Tu es arrivé en France quelques années auparavant. Tu me dis, tu arrives en hiver, tu as froid. Ouais. Toi, tu vas au Canada.
Canada en plus. En plus, en hiver, j'avais froid ici, arrivé là-bas, c'était une calvaire. Maintenant, quand j'appelais mes parents, ils me disaient, il fait froid, ils disaient, calmez-vous, fais pas froid chez vous. Venez ici, venez voir c'est quoi le vrai froid.
T'arrives à t'acclimater assez rapidement à ta nouvelle vie canadienne?
C'était dur.
Ouais.
Sous l'hiver, je me rappelle. Heureusement que j'ai une très bonne équipe au Canada. Mac Ramsey, Samuel Descaries, Luc aussi à l'époque. Et ils prenaient vraiment soin de moi. Ils venaient me chercher tous les matins, aller m'entraîner, me redéposer à la maison. Je me rappelle, je crois que c'était les trois premiers mois. Je ne suis pas sorti une fois à l'extérieur.
Ouais,
heureusement, c'est eux qui venaient faire les courses parce qu'il faisait tellement froid. Ouais. Je ne pouvais pas sortir. J'étais tétanisé. À chaque fois que je sortais, c'était juste pour sortir de mon appartement, entrer dans la voiture du coach et partir. Et je rentrais. J'ai jamais senti ce froid. Ouais. C'était horrible. Vraiment.
C'est dur
horrible.
Parce que, comme tu l'as dit, tu as signé un contrat où tu peux douter un peu. Tu te retrouves dans un nouveau pays, nouvel environnement, nouveau coach.
Écoute, j'ai oublié de te raconter la petite histoire. Je me suis fait avoir.
En plus
Au Canada, je ne connaissais pas du tout.
Ouais.
La météo, les saisons, je connaissais nada, mais rien. Et le truc, c'est quand ils nous invitaient au Canada au mois de septembre, il faisait beau.
Ouais, il fait bien là-bas.
Il faisait beau, c'était doux.
Ouais, septembre, c'est super.
Je me rappelle, j'ai dit à John, ah ouais, c'est doux, on faisait faire des joggings en t-shirt dans le parc. Je dis, John, c'est pas mal, c'est bon, je pense que je veux bien m'acclimater à cet environnement, hein, j'aime bien la ville. Je me pointe au mois janvier d'après. Ouais. Méconnaissable. Je suis comme, attends, c'est quoi ce bordel? Il y a quelques mois, c'était pas ça, là. Ouais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la météo là-bas, ça varie assez vite.
Ouais,
et ça, je me suis dit, oh, putain, enfin, désolé du gros mot là, mais c'est. Peut-être que si j'aurais su ça, peut-être que j'aurais réfléchi avant de signer le contrat, je sais pas encore, mais peut-être que j'aurais réfléchi un peu plus.
En tout cas, sur le ring, ça fonctionne.
Ah.
Clairement, l'alchimie avec le coach, elle prend bien, on le voit bien.
Exact.
Parce que on regarde les combats, on les a, on peut les regarder, on se rend compte pendant les interrounds que ça fonctionne très bien, que vous avez déjà créé quelque chose, donc tu montes vite, tu fais ton nom. Entre-temps, il y a un changement de promoteur.
Ah.
Tu quittes Yvon Michel et tu vas avec Camille Stéphane, ton promoteur d'aujourd'hui. Ah. J'imagine que tu as mieux négocié ce coup-ci.
J'ai mieux négocié, mais c'est surtout une meilleure équipe.
Okay.
Une meilleure équipe. Et encore une fois, c'est pareil, je l'ai senti à l'énergie. Quand la première fois que je rencontre Camille, à l'époque, j'étais encore en négociation. On avait signé un contrat avec RMC aussi à l'époque.
Oui.
Voir si je revenais ou pas. À l'époque aussi, j'étais aussi en négociation avec un autre manager, Eglise Limas.
Ok. Manager de Alexandre
Lomachenko, Yuzik, tout ça. Et c'était qui le troisième, je ne sais plus. J'étais en négociation pendant la pandémie, j'avais quitté mon ancien promoteur, j'étais un agent libre. Okay. Et j'étais en train de négocier. Et je fais un dîner avec Camille. Je le serre la main. Encore ça qui me dit, c'est lui. Qui me dit, ok, là tu es avec lui, tu dois travailler. Et j'avais raison. Et je pense que c'est vraiment le promoteur qui est venu qui m'a fait exploser.
Tout change. En tout cas, à partir du moment où tu signes avec lui, le niveau d'adversité, il augmente d'un seul
coup. Ouais. Le management est beaucoup mieux, le plan de carrière est beaucoup mieux et c'est vraiment allé assez vite. Et encore une fois, je suis très très chanceux de l'avoir croisé, très très chanceux que l'univers l'ait mis sur mon chemin. C'est après que tout explose.
Ouais, donc tu fais des combats qui sont plus importants, qui permettent de te positionner,
exact,
de te classer. Et tu finis donc par avoir ces chances de combat, notamment pour la ceinture intérim. Il y a un combat qui est important, c'est celui contre Sergei Derevyanchenko.
Derevyanchenko, ouais. Bah, avant aussi, il y avait un combat important contre Gongora.
Contre Gongora, ouais.
Gongora, c'était pas mal.
Il n'était pas si simple, hein, ce combat-là.
Ouais, c'était puissant. Je crois que c'était le plus puissant que j'ai eu dans ma carrière.
Tu réponds à une question que j'allais te poser. Si c'était celui qui t'a frappé le plus fort.
Ouais, il était très, très puissant. Chaque coup, je sentais... boum, 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 il frappait, ça faisait très très mal, il m'a même touché au sixième round,
ouais.
Il me touchait, il l'enfoirait, il voulait me finir, et ouais, combat, je crois que c'est le combattant qui faisait le plus mal.
Ouais, c'est la première fois que tu doutes vraiment dans ta carrière pro ?
Face à lui ? Honnêtement, j'ai jamais douté, non, c'est sûr que j'ai eu des moments difficiles, pendant le combat, mais j'ai jamais douté. J'ai toujours eu confiance en moi, je savais que j'allais le battre.
Ouais.
Et même si j'ai eu un moment très difficile, je me rappelle ce sixième round-là, où c'est la première fois de ma vie, à vie, que j'étais touché. Et, des amateurs, chez les professionnels, ouais. J'ai jamais été... je ne savais pas c'était quoi la sensation d'être touché. À chaque fois, on m'expliquait, et cela, je l'ai vécu. Et
ouais.
C'est vrai que quand tu sors de là, tu dis, ok, ah ouais, putain, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai, ce qui m'a sauvé un peu, c'est mon ego. Je voulais pas. Tout le monde me disait, ah, tu aurais dû mettre un genou à terre, récupérer.
Non. On l'a tous dit devant notre
télé. Maintenant, je suis comme, non, je récupérerai pas, là. Je vais pas mettre un genou à terre, il m'a pas fait mal. Et c'était vraiment l'ego qui était là. Et après, derrière, je suis revenu par la suite. Mais c'est vrai que c'est une sensation assez spéciale.
Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est un combat qu'on a vécu avec difficulté. Mais en même temps, on s'est dit. C'est le genre de test, le genre d'écueil
qu'un
champion doit passer.
Exactement. Je peux te dire qu'après ça, tu sais, on m'appelle toujours solide. Ouais. Et j'ai toujours dit au monde, pour ce combat-là, on peut être toujours solide, mais tu sais jamais à quel point tu es solide, jusqu'à qu'il faut vraiment que tu sois solide. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais comme, oh, solide, mais j'ai jamais fait mes preuves. C'est sûr que je tapais les gars, mais j'ai jamais été dans une situation difficile où tu as le gars en face qui t'a touché.
Ouais, qui te touche. Et tu veux apprendre, en fait.
Ouais, et derrière, il veut te finir. Ouais. Je sais pas, j'invite nos téléspectateurs d'aller revoir ce sixième round historique. Et le gars, il veut me finir et bam, bam, toi, tu es là, tu essaies de survivre. Quand tu sors de là, tu dis, ok, je mérite le solide, là. Tu dis, ok, moi, je m'auto-certifie. Je m'auto-certifie solide. Effectivement, je suis solide. Mais jusqu'à ce jour-là, je savais que t'es solide, mais j'avais aucune preuve. Enfin, si, j'avais des preuves parce que...
Déjà, t'as jamais été touché avant
ça. Jamais été touché à l'entraînement, mais... C'est là que tu dis, ouais, là je mérite amplement le surnom.
Ouais, c'est clair. Et puis après ce combat-là, ça change. Je pense que l'œil des spécialistes aussi change.
C'est ça, l'œil des spécialistes change. Ouais. Aussi, au niveau de la confiance en soi, ça change aussi.
Ouais, tu m'étonnes.
Les gens ne se rendent pas compte, mais la victoire, c'est dans la tête avant. Hein.
Ouais.
Si mentalement, tu n'es pas solide, physiquement, tu ne serais pas solide. Là. Si mentalement, tu es en mode, j'ai peur, peut-être qu'il va me toucher. Après ça... Les coups, j'en avais rien à foutre avec eux. Pas en poste, ce qui va se passer là.
Ouais, ça t'a levé les derniers doutes, quoi.
Bah ouais, les derniers doutes, c'est en mode on va aller en enfer tous les deux. On va aller en enfer tous les deux. C'est moi qui va sortir de là vivant. Et c'est ça qui fait en France que t'as. Après ce combat, j'ai eu un switch psychologique que j'avais que. Effectivement, je pensais que j'étais fou, mais j'étais vraiment fou là. Je me suis dit, bien fou. Donc,
justement, parce que donc tu bats Derevyanchenko, moi, c'est un combattant que j'ai en haute estime.
Ah,
je trouve extrêmement fort.
Très, très bon.
Très intelligent.
Très, très bon.
Et en plus, il se blesse assez rapidement, mais malgré tout, il arrive quand même à donner de change, il arrive quand même à poser des difficultés parce que c'est une galère. C'est le genre de combattant que.
Bah, pour la petite histoire, on s'est blessé en même temps.
Ouais, en plus, ouais.
On s'est blessé.
On apprend après. Sauf que toi, on voit rien.
C'est ça, moi, on voit rien. Mais en plus, si tu revois le combat, tu vas te rendre compte. Quand tu regardes le combat, tu vas te rendre compte que ma main gauche aussi, elle est morte. Ouais. J'essaie de mettre des jabs une fois de temps en temps. Après, c'est un jab, après j'ai mal, il faut que j'attende que la douleur part. Et moi aussi, je crois qu'on s'est blessé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est blessé en même temps, le sud-biceps. Et ce qui est un peu frustrant, parce que moi, j'arrive sur le ring, je suis comme, masse-moi le bras, j'ai un truc qui a un truc engourdi, j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Lui aussi était blessé.
Ouais.
Et on finit le combat et tout le monde reste sur l'impression que lui était blessé. Moi, j'étais rien. Et moi, j'étais comme, attends, moi aussi, j'étais blessé.
Donc, c'est le problème d'être solide.
C'est ça. Et le problème, c'est que personne s'est rendu compte.
Ah oui.
Je regardais les réseaux sociaux, je suis comme, ils sont stupides. Nous aussi, on était blessés. Et tout le monde entend, ouais, il n'a pas pu finir, KO, il avait qu'un bras, blablabla. C'est ça. Après, j'ai laissé passer parce que les gens diront toujours de la
voilà,
merde. Mais c'est quand même un peu frustrant. Mais ça reste quand même qu'il était très bon en adversaire. Bah justement, c'est un combattant que moi, je suivais depuis mon début chez les amateurs.
Ouais.
L'équipe ukrainienne, je me rappelle son équipe ukrainienne à l'époque, Lomachenko, il y avait lui, il y avait Yuzik, il y avait Kitrov.
Ouais, c'était une équipe superbe. Ensuite, lui, il a fait une belle carrière pro, il a battu Golovkin, il lui a fait des misères aussi. Donc, tu vois, moi, là, vraiment, c'était impressionnant. Et puis après, on va revenir sur le côté fou qui m'intéressait, parce que t'en parlais juste avant, parce que ton dernier combat, Christian, vous avez fait un combat de malade contre Lester Martinez. Tu te rappelles, t'es venu au Fighter Club. On avait teasé sans le teaser que ce serait probablement lui ton adversaire. On savait que ce serait la guerre. Vous avez été au-delà de ça.
C'est une guerre. C'est une guerre. Je pense que j'ai un peu trop donné ce combat. J'ai trop voulu la guerre.
L'ego,
mais surtout le trop vouloir prouver.
Ouais.
Ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça faisait maintenant 3 ans que je courais après Canelo.
Ouais.
Ça faisait 3 ans que j'étais classé numéro 1, WBA et WBC, deux fédérations. Et j'étais deuxième IBF. Et avec mon équipe, on mettait la stratégie à mode, ok, on va être classé partout. Pas qu'il t'aille.
Comme ça, au moins, il n'y a pas de...
Comme ça, il n'y a pas de Christian est partout. Et avant son combat, avant Crawford, il y avait deux possibilités. Il y avait moi ou William Scure.
Oh, exact. Il est parti prendre William Scure.
J'en avais jusqu'à là.
En plus, le combat que fait William Scure.
Combat nul, dégueulasse.
Il a fait beaucoup de tours de ring.
Tom et Jerry, comme dirait Turki.
Ouais.
Turki à la fille, comme dirait Tom et Jerry. Et j'étais vraiment frustré. Après ce dernier refus de me combattre, de prendre le combat plus facile, j'étais vénère. Putain, et encore, il m'a encore esquivé. Il va encore prendre une autre personne. Après, je comprends, c'est le business. Après, c'est comme ça.
Lui, il choisit sa carrière.
Et quand on est arrivé à Vegas, ce combat-là, j'étais en mode, ça va être moi la finale. Ça va être moi qui va faire le combat de l'année. C'est moi qui va voler la vedette. Et je pense que je suis allé là-bas trois modes.
Oui.
Trois modes, on a fait un spectacle de fou.
Vous l'avez fait.
On va marquer les esprits, tu vois. On l'a fait.
Ça fait un match nul au final. Mais
au départ, on devait vraiment gagner, suivre la stratégie, vraiment gagner le combat, tu vois.
C'est ça.
Moi, je suis allé à un mode là-bas, on va marquer les esprits. Tout le monde va se rappeler de mon combat, pas son combat à lui, tu vois. Et ce qu'a fait, ça fait en sorte que j'ai tout donné sur le spectacle, mais j'ai moins écouté les consignes des coachs et moins suivi la stratégie qu'il y avait à mettre en place.
Vous faites match nul du coup, et lui, il va être en position de disputer. La WBC lui donne l'opportunité de faire une ceinture intérim.
Ouais.
J'imagine que c'est pour pouvoir
derrière,
mettre en place une revanche derrière. Parce que toi, maintenant, tu es le champion. Donc maintenant, j'imagine que pour un certain Mexicain, tu es devenu très intéressant. On parle de Canelo Alvarez et on va finir cette interview là-dessus. On sait quand il combat Canelo Alvarez. En général, c'est pour Cinco de Mayo.
Ah.
Et c'est pour septembre.
Exact.
Tout le monde, lui, il a annoncé qu'il fera un retour en septembre.
Ah.
Est-ce que, sans trahir un secret de négociation, tu penses que tu es en pole position pour faire ce combat ?
On est en pole position. Et c'est un combat qu'on veut. C'est un combat, ils sont, pour être honnête à toi, ils sont pour parler. Exactement, on est en pour parler avec Turki Alashik, avec qui il a un contrat avec l'Arabie Saoudite, et avec Canelo. Et le négociation, ça avance très bien.
Et t'es optimiste?
Je suis très optimiste. C'est un combat qui va se faire.
Ok.
Après, en boxe, il ne faut jamais tuer 100% parce qu'en boxe, ça peut varier.
Voilà.
Mais c'est un combat qui a des grandes chances de se faire. Il y a des grandes possibilités. Les négociations sont en cours. Il faut savoir que nous, ça fait maintenant 3 ans qu'ils nous esquivent. Ça fait 3 ans que nous, on ne veut pas être challenger numéro 1. On veut être champion et prouver qu'on est le numéro 1 de la catégorie. Et je pense que malgré le fait qu'il ait perdu face à Crawford, il est allé en retraite.
Oui.
C'est le numéro 1.
Oui.
J'aurais beau avoir le WBC, chez le Mexicain, beau avoir le WBA, ou je sais pas qui aura beau avoir le WBO, tout le monde sait que Canelo.
C'est l'homme à battre.
Une fois que tu aurais battu lui, ok, tu pourrais dire ok, I am the number one.
Okay.
Et voir par la suite. Mais c'est sûr que nous, mon équipe et moi, c'est un combat qu'on veut absolument faire.
Bah écoute, nous, en tout cas, c'est ce qu'on espère. On pense aussi que là, de toute façon, tu es en position. Lui, c'est le combat qu'il veut aussi, visiblement. Il a arrêté de dire qu'il ne connaissait pas, parce que c'est ce qu'il disait l'année dernière.
C'est quand même assez drôle.
Ça t'a fait rigoler? Ou ça te frustre aussi?
Non, au début, c'est un peu frustrant. Après, la vidéo est arrivée dans un moment où c'était un peu chaud.
C'est un peu chaud.
Il y avait une négociation. Ouais. Alors, il va finalement me prendre ou pas? Il va finalement me rencontrer ou pas? Et je comprends. C'est un Canelo. C'est comme si tu disais à Mbappé, est-ce que tu connais un gars de tel... Il va pas te faire de la publicité.
Oui, bien sûr.
Il va pas faire de la publicité. Il sait qu'il cite ton nom. Forcément, il a dit non. En plus, c'est quand même assez drôle parce qu'on était invités à Vegas, aux Ring Awards, les récompenses. Et on était là, et t'as Canelo qui revient, et il vient vers moi. How are you, champ? Tu vois, sur le coup, je suis comme, ah, l'enfoiré, finalement, tu me connais. Hein. Mais honnêtement, une très belle personnalité. Il n'y a pas la grosse tête du tout. Il a dit bonjour à tout le monde, il est arrivé. On s'était croisés après, on a discuté un peu. Mais honnêtement, il est très, très simple. Il est très loin de l'image que j'avais de lui dès le départ.
Ok, bon, ça c'est bien, c'est bon à savoir.
Ouais, c'est bon à savoir. Après, le temps, puisque faut savoir qu'entre temps, juste avant ça, il y avait déjà un peu des pourparlers pour le combat. Donc, ouais, okay. Forcément.
Tu as une idée de comment tu approcherais ce combat-là pour finir un petit peu ce que tu as vu?
Bah, honnêtement, j'ai pas trop envie de me tracasser la tête. Tu vois, ça fait 3 ans qu'on le court après, ça fait 3 ans que je me dis, ah, si je te rends compte, je vais faire ça. Ouais, non. Je suis comme, je suis champion du monde maintenant, je profite de mon moment. Il y a des négociations en place, ça se passe tant mieux, ça se passe pas. Tu vois, ça fait 3 ans que j'ai mis mon esprit là-dedans. Ouais. Canelo, on va l'avoir. Canelo, maintenant, je suis comme, j'ai la ceinture, je suis content. Si c'est pas Canelo, on aura de gros combats où je vais défendre ma ceinture.
Et tu penses, parce que là, tu vas avoir 31 ans.
Ah, exact, avril.
Tu penses continuer encore longtemps à boxer?
Honnêtement, je me laisse encore. À partir de 2028, bah déjà là, je suis déjà en train de préparer ma retraite petit à petit. Voir ce que je peux faire par la suite et plus ou moins essayer de me bâtir un patrimoine.
Préparer la précarrière.
Et moi, je me suis fixé, à partir de 2028, j'aurai déjà un pas. 2028, okay. À prévoir par la suite, si j'ai des grandes opportunités, je peux prolonger ça peut-être jusqu'en 2029. Après, moi, je suis parti 2028, 2029, ça y est, j'aurai assez donné. Je me suis toujours promis de quitter ce sport avec le moins de séquelles que je peux avoir, évidemment, parce que je fais des combats spectaculaires, j'ai un style qui prend plus de risques que la plupart des boxeurs. Je me suis toujours dit que, vu ton style, tu te dois de partir en retraite avant les autres. Et je ne me voile pas la face, hein. Je sais que je prends beaucoup de coups. Le monde voit mes combats pendant le combat, à la télé, mais il faut savoir qu'il y a des préparations derrière. Ouais. Il y a des centaines de rounds de sparring qui sont faits depuis le début de ma carrière, qui ont été faits depuis le début de ma carrière. Donc je me suis toujours dit... 23 ans... on passe à autre chose.
Bah écoute, en souhaitant que tu sois en bonne santé de toute façon et que tu aies atteint reste des objectifs.
Je touche du bois.
Qui te reste à atteindre.
C'est en bonne voie en tout cas. J'ai toujours eu un ange gardien.
Ouais.
Et j'ai toujours mon ange gardien, il fait des heures sup, mais lui, il compte pas des heures. Il fait des heures sup à mort. J'ai toujours été très chanceux.
Ouais.
Et c'est vrai, j'ai toujours été extrêmement chanceux dans ma carrière, que ce soit dans ma carrière amateur, ma carrière professionnelle, même dans ma vie de tous les jours. Ouais. J'ai toujours été chanceux. Je me dis, je vais continuer comme ça et je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon ange gardien. Ça va aller comme je le souhaite.
Écoute, on espère. Ça finit. J'ai toujours 5 questions à poser.
Exact.
Par contre, il faut répondre rapide. Tu réfléchis pas, tu me donnes la première réponse qui te vient à l'esprit, ok?
Ok.
Let's go, c'est parti. Quel métier t'aurais fait si t'avais pas été boxeur?
Entrepreneur.
Peu importe les affaires.
Peu importe le domaine. Je pense que ouais, j'ai plus ça appris dans l'esprit d'entrepreneur.
Ok. C'est quoi le combat que tu pourrais regarder et revoir toute ta vie?
Sans combat, un combat moi, un autre combat
Comme tu veux, un combat.
Un combat, je pense Gongora face à Gongora.
Un combat contre Gongora, ouais. Très bon combat.
Ah, ouais. Sinon, si c'est un autre combat, je te dirais Marvin Hagler face à Thomas Ernst.
Merci. Ouais. Le meilleur round de l'histoire de la boxe. Merci. C'est quoi ton film de bagarre préféré? Ça peut être de la boxe, ça peut être du kung-fu, ça peut être ce que tu veux.
J'ai pas beaucoup de combats de bagarre. À l'époque, en plus, quand j'étais plus jeune au Cameroun, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs. Il y avait beaucoup de films de Shaolin.
Bah oui, bien sûr. En Afrique, il y avait beaucoup de films de Bruce Lee.
Un film de Bruce Lee, ouais, c'est exact.
Très bien. Ndolé ou Poutine?
Ah, Ndolé. Quand même, respecte Ndolé.
On sait jamais.
Déjà, comparer les deux, c'est insultant.
D'accord.
Tu peux pas.
Attends pour moi. Ndolé, plat national camerounais, je précise.
Ah, plat national.
Ceux qui nous regardent. Et enfin, c'est qui ton goat de la boxe? Le plus grand boxeur de tous les temps pour toi, c'est qui?
Moi, je dirais, le cœur va avec Tyson.
Ouais.
Et le cerveau ira avec Mohamed Ali, parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour la communauté, pour l'histoire de la boxe, mais pour moi, le niveau boxe en général, moi, c'est toujours Tyson. Pour moi, c'est le roi des rois. Et après, surtout ce qui est au-dessus, parce que Mohamed Ali, lui, il a dépassé la boxe. Lui, il a pris une ampleur internationale, pas forcément à cause de la boxe, mais à cause des valeurs qu'il a transmises, ouais. Sa bataille. Et, pour moi, boxe pure, Tyson, mais GOAT dans la vie en général et dans la boxe, Mohamed Ali.
On sera d'accord sur ce mot de la fin. Christian, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps, en tout cas aujourd'hui.
Merci à toi.
Plein de bonnes choses pour la suite. Et on espère te revoir à l'automne sur le ring. Contre oui. Canelo Alvarez.
J'espère.
Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner, de partager, d'en parler tout autour de vous. Et à très vite pour un prochain épisode de Baba Versus. Ciao.